bah Daniel, ça suffit, hein, moi je m'en vais parce que c'est une émission de parti pris, tu te plais à foutre de l'huile sur le feu, à faire mal partout où ça brûle. Alors ça nous emmerde, hein. La radio c'est pas ça, et la radio, eh bien, ça n'est pas une émission de parti pris comme la tienne. Adieu.
Bonjour, Viviane de Bretagne, Morbihan. Moi, je téléphonais pour dire que j'adore absolument entendre les gens qui vous engueulent, là, Daniel Mermet et son équipe. J'adore les grands-mères qui disent « Oh, monsieur Mermet, ça c'est fille, avec vos cochonneries à l'heure où les enfants, machin. J'adore quand le type parle de Raminski, de gauchiste. Je trouve ça rigolo, ça me plaît. Bon, peut-être pas autant que vos émissions, mais aussi, peut-être quand même autant. Voilà, ben écoutez, rien que pour ce plaisir-là, continuez. Au revoir.
Voilà, du fiel et du miel sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37, des réactions contrastées. Aujourd'hui, retour à la case départ, le chemin de l'école en 94. C'était cette année-là, en 94, j'ai refait le chemin de l'école de quand j'étais petit, c'était avec Zoé Varier. J'ai refait le chemin sur mes propres pas, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, le chemin de l'école. Mais là, il faut le faire physiquement, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la porte de votre maison de quand vous étiez petit, puis refaire le chemin, et vous allez voir des tas de souvenirs revenir, des tas d'images, physiquement. Si vous pouvez pas le faire dans votre tête, il faut... Alors, il y a des parcours qui sont difficiles à refaire, les maisons qui ont disparu, les routes qui ont disparu, les paysages qui ont changé, etc. Enfin, en tous les cas, voilà ce à quoi je vous convie aujourd'hui, mais auparavant, encore des messages. Hier, comme le disait cette dame, cette auditrice, il y a un auditeur qui a dit que vous n'étiez, vous, ami de la base. J'y suis qu'un ramassis de gauchistes. Réponse.
Oui, Daniel Mermet, je viens d'écouter le début de votre émission. Je me porte à faux auprès du monsieur qui déclarait qu'il y avait les gauchistes qui vous écoutaient. Eh bien, je tiens à vous dire que non. Moi, je suis de droite. Nous sommes plusieurs à vous écouter de droite. Et on n'est pas absolument sectaire. Moi, je vous connais depuis longtemps, depuis votre émission. Je sais plus combien, ça monte à quand même une dizaine d'années au moins. Mais non, il y a des fois où vous êtes agaçant. Il y a des fois où je préfère changer de station. Mais souvent, je vous écoute. Ça fait réfléchir et je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Il faut continuer. Nous sommes avec vous. Au revoir.
Oui, Daniel Mermet, bonjour. C'est Jean-Luc de Marseille. Ça fait 7 ans que je te suis, ça fait 7 ans que j'écoute le répondeur, ça fait 7 ans que j'écoute l'émission, donc. Mais là, je réagis, j'ai jamais téléphoné avant, et là, je réagis parce que il y a eu un petit coup de fil là, à propos d'un type qui parlait de gauchiste, qui parlait de ton pouvoir de conviction. Alors moi, juste une chose, dans l'histoire, celui qui m'a le plus convaincu, en fait, c'est ce type, ce pauvre mec qui téléphonait, et je... Bon, voilà, quoi, il suffit d'ouvrir un peu les journaux, il suffit d'ouvrir un peu les yeux, il suffit de peut-être de regarder autre chose que les journaux télévisés ou d'écouter RFI ou enfin bref d'aller chercher, d'aller gratter un petit peu plus loin quoi que la moyenne des gens. Donc je conseille à cet auditeur là de se renseigner un peu plus, peut-être de lire un peu plus aussi et puis va donc savoir, hein. Voilà.
Salut Daniel, c'est Jean-Pierre de Cahors. Alors, je suis surpris, on se fait traiter de gauchiste. On se fait traiter de gauchiste par des enfoirés qui n'ont rien compris à l'économie. Je rappelle simplement à ce sinistre personnage qu'il regarde un tout petit peu mieux ce que le chancelier Schröder a dit dernièrement au sujet de la mondialisation. Il a quand même fallu qu'un Italien se fasse tuer à Gênes pour qu'enfin ces grands messieurs commencent à prendre en compte la vraie société. Ras-le-bol de Vivendi, de Messier et toute leur clique. Il y en a marre. Et je ne regrette pas de me targuer d'être un gauchiste et un vrai trotskiste. Allez, salut Daniel.
Oh, je piaffe d'impatience. J'ai trop envie de dire à cet auditeur haineux qui vous invectivait tout à l'heure que je ne fais pas du tout partie de ce ramassis de gauchistes. Je suis plutôt petite bourgeoise moyenne, un peu DCBG Cato, prof néo retraité, et je vous écoute. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais j'aime votre direction d'attention, celle de trouver dans l'homme ce qui est de meilleur et ce qui amène au respect. Alors continuez, monsieur Mermet. Je ne suis pas gauchiste et je vous écoute. Merci.
Oui, Daniel, salut. Je viens d'entendre les messages laissés sur répondeur de là-bas si j'y suis. Tout de suite, peut-être naïvement, je me demande pourquoi tant de haine. Et puis tout de suite, j'aimerais que tu montes une émission quoi, avec ces gens qui nous haïssent pour, je sais pas, pour les entendre, pour mieux comprendre ce ressentiment et ce qui les pousse dans ce retranchement humain. Peut-être qu'on pourrait avancer un peu à réfléchir contre cette France qui est toujours coupée entre la gauche et la droite et qui nous amène à des propos pareils, quoi. Voilà, ciao, c'était Valérie de Gemnos en Provence.
Voilà, j'ai fait un petit poème rigolo, ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs minoritaire gauchiste, mon poumon c'est Mermet, sans là-bas si j'y suis, je vis donc en apnée, voilà. Mieux réflexion.
Voilà, et après on va dire que c'est du culte de la personnalité. Pas du tout, pas du tout. Demain il y aura d'autres messages sur le répondeur de la basse Jismi, 01 56 40 37 37, et en route pour l'école. Salut, c'est Daniel Mermet, la basse Jismi.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est là que ma mère dort, derrière des volets fermés. Une chambre, c'est là que mon père est mort, et c'est là que je suis né. Dans cette chambre, mes frères, mes sœurs, sont nés là, c'était comme ça. Derrière ces volets, un pavillon quelconque, d'une banlieue quelconque. L'amour, les rêves, la mort, la souffrance et la vie. Les choses de la vie. Le décor quelconque d'un roman, familial sans plus d'importance que n'importe quel autre. Petite banlieue, petit pavillon de banlieue, les autres venaient de loin, de haut, et moi de là, de rien, économiquement faible. C'est là que je suis parti faire mon premier voyage. C'est le tout premier voyage que j'ai eu envie de refaire et que je vais refaire aujourd'hui. Un voyage que chacun a fait dans sa vie. Une première fois, un premier voyage, le chemin de l'école. Cette vie donc, derrière ces volets, et puis le pavillon, et puis le perron, et puis le jardin, et puis le cerisier, et puis le mur, et puis le grillage, et le lilas, et après, c'est la porte. La porte en fer de la rue, et puis la rue, et puis dehors, et puis le trottoir, et puis les voisins, les autres, derrière le mur, derrière le grillage, les autres vies, et puis le coin de la rue, l'épicerie, un haut lieu. Et puis c'est tout. Presque. Le monde s'arrête ici, au coin de la rue. Voilà l'univers. Voilà ce qu'il y a à imaginer. Un monde limité, heureux, comme le ventre d'une mère. Bien sûr, il y a de temps à autre des excursions, à l'église, au marché, au mariage à Jacqueline et Roger. Mais un jour, aventure. Un jour, en route, pour l'école, la grande, l'arrachée. Un jour, le premier voyage qu'on fait seul, dans la vie. Le chemin de l'école. Le tout premier. C'est pas vraiment la liberté, mais c'est la laisse qui s'allonge. Vertige. Soudain, le monde s'agrandit. Vaste, le monde, et pour ainsi dire, presque infini. J'ai eu envie de refaire ce que, à peu près tout le monde peut refaire un jour dans sa vie. Le chemin de l'école. C'était... Il y a des années, je commence à mentir sur combien. C'était où? Je dirais pas exactement. C'est un chemin commun, familier, on l'a tous fait. C'est pour éveiller en vous des rêveries, des nostalgies, je sais pas ou juste quoi, des bonheurs peut-être. Jamais je n'ai refait ce chemin et je ne sais pas si mon école, au bout, existe toujours. Je sais vraiment pas. J'ai emmené Zoé, Varié, avec moi, pour pas avoir l'air idiot d'un ancien enfant qui parle tout seul dans une rue de banlieue avec un micro. Alors on part, mais je vous préviens, je vous dirai pas tout. Je m'en garde pour moi. Il n'y a pas prescription pour tout dans la vie. Alors, tablier, goûter, plumier, castagne, et puis, c'est ça. Je dirais pas vraiment tout. Tiens, je vois le chat. C'est le chat de mon père, là, qui est là. Regarde, regarde. Et donc voilà, alors la véranda, le petit perron en ciment, tout est petit parce que c'est des petites gens, c'est des gens de peu ici. Et puis il y a la porte, tout ça, ça a beaucoup d'importance parce qu'on passe, de la maison à ce jardin qui est un lieu entre les deux, entre dedans et dehors, entre eux et nous. Là on passe, et puis là tout d'un coup c'est la rue. Parce que longtemps l'espace, tu vois, la vis limite là, l'épicerie, ça s'appelait, VG, l'épicerie. Hein, c'est les coopérateurs, ça a été les coopérateurs, après ça a été VG. Puis après, c'est devenu Madame Ham. Bon. Voilà, chez la mère Ham, Madame Ham. Donc là, tu vois, ça fait 50 mètres. L'espace s'arrêtait ici. Et puis là-bas, chez Dalen. Tu vois, le terrain qui était là, c'était le plombard qui s'appelait Dalen. Bon, il y avait Gueulard, le marchand de légumes. Il y a les filles fourmis. Bon, c'est déjà plus loin. Là, Dalen, le plombard, qui faisait de la peinture. Il peignait des bouts de bois tout en noir, il disait que c'était la nuit, puis il peignait des machins tout en blanc, il disait que c'était de la mer. Il était très drôle. C'est lui qui a installé le chauffe-eau. Chez nous, c'est des grands moments, le chauffe-eau, parce qu'évidemment, quand j'étais loin, il n'y avait pas tout ça, tout petit. Et puis là, il y a Rousseau. Là, ce pavillon, le parterre en Molière, la vraie Molière, quoi. Hein. Rousseau, lui, il avait un atelier qui va là-bas derrière, et il faisait des rails de chemin de fer là-dedans, et il y avait le téléphone. On entendait le téléphone sonner. Voilà, pour Rousseau, il était en bleu avec sa gâpette, il avait une grosse femme, des lunettes. Là, il n'y avait rien. C'était un terrain vague super, là. Et il y avait le père Gergaud, qui était un type bizarre, qui avait une moto. Il avait une bru, qui était très très rondelette, qui avait des nichons, des choses comme ça. Et ça nous attirait beaucoup. Mais lui aussi, je crois bien qu'il y avait une histoire comme ça. Il y avait des cassis dans son jardin. C'est un très joli jardin. On allait pour les cassis. Il y avait des choses un petit peu floues avec sa belle-fille. Enfin bon, là, ça, cet immeuble-là de deux étages. J'oublie. Là-haut, en tout cas, c'est la famille Roussa. Monsieur et Madame Roussa qui vivaient là. Madame Roussa, elle faisait des pyjamas. Et son mari était très gentil, mais il faisait repeindre son vélo. Et là, c'est là, je me rappelle pas, je devrais connaître que... J'ai oublié leur nom, Gilo. Il s'appelait Gilo, voilà. Parce que derrière, dans la cour, il y a un magnifique cerisier. Là, la dame qui est en train de, qui nous a vu, qui demande ce qu'on fait. C'était déjà un peu bizarre, cette maison. C'était la maison Mills. Monsieur Mills, tu vois, dans le garage que tu vois là, pendant des années, il a restauré une voiture. Il était garagiste.
La même.
Pendant des années. Une traction. Et un jour, il a sorti la traction. C'était la traction de la traction. Il est parti avec, il a laissé sa femme et sa môme. Alors là, il y avait Monsieur Hulot. C'était un soleil, ce Monsieur Hulot. Et Madame Hulot, elle faisait de la couture, elle était petite main. Ma mère faisait de la confection, tandis que Madame Hulot faisait de la confection, tu vois. Déjà plus luxe. Petite main, haute couture. Et lui, Hulot, il était installateur, il pétait. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Loche, peut-être? J'adorais dire ça. Il avait une fille charmante. Là, c'est vraiment trop intime, là. Je peux pas trop raconter, mais il y a encore des histoires qui sont pas réglées. On avait 7 ans, quoi. On avait 7 ans. Là, cette maison qui se présente à ta vue, c'est Ardel, le Coropier. Mon père l'appelait le Coropier. Pourquoi? Parce qu'il était manucure-pédicure. Ardèle. C'est ça qui, voilà, t'as une vue imprenable sur les jardins où j'ai passé mon enfance. Alors, ce que tu vois en plus, c'est le cerisier. Parce qu'il y en a plus. Il n'y a plus de cerisier. C'était l'attraction du jardin. Mais c'est qu'il a été remplacé avantageusement par cet arbre que je vois là.
Vous mangez dans le jardin.
On mangeait dans le jardin, on sortait la table. On avait une grosse table, là. Tu sais ce qu'on appelle du Henri III. On sortait la table Henri III par la fenêtre, là. Et puis là-dessous, c'était... Ouais, c'était la tonnelle, c'était... On faisait... Mais là, tout s'est passé dans ce jardin. Tout s'est passé, toute notre vie s'est passée dans ce jardin. Ça fait quoi? Ça fait 25 mètres. Avec ce mur de briques creuses. J'adore ce mur de briques creuses. Tu vois, il fallait pas taper au ballon parce qu'on le faisait écrouler. Alors quand tu vois bien que c'est pas nous. On a la preuve maintenant que c'est pas nous. Là aussi, il fallait pas taper sur ce mur-là au ballon parce qu'on allait faire tomber la maison. D'après le propriétaire qui habitait derrière, monsieur Mirabel. D'après lui, qui avait sa petite tonnelle, sa femme qui s'appelait Jeanne, lui s'appelait Julien, elle Jeanne, et la sœur moustachue, Juliette, qui est morte derrière ce mur là-bas. On a passé notre vie, là. Toute notre vie. La communion, les mariages. Mais là, moi, je vois ma maison de l'extérieur, mais évidemment, je la voyais de côté, d'accord? Et là, tu vois, regarde, si je me mets de côté maintenant, si je me mets comme j'étais quand j'étais du monde, tu vois, ce passage de rue, comme ça, c'est un travelling. Comment c'est un théâtre permanent, quoi. Et là, passait, là, il y a un gars qui est, il y a un monsieur qui est mort, là. Le gars qui faisait, qui vendait les tissus au marché, qui poussait sa petite carriole, il est mort devant chez nous. Ouais. Mon père a pris un tissu qui était dans sa petite carriole. Il vendait des tissus. Hein, le gars? Voilà. Il était là sur ce trottoir. On voyait passer d'autres choses, on voyait passer des flics. Dont un des flics qui a dénoncé un de mes frères qui est parti en camp à cause de lui. On voyait...
Toujours là?
Je sais pas. Il est peut-être mort quand même, j'espère. Il y avait le fils, le père Colson, le père à mon pote Colson, le ferrailleur. Il était toujours bourré, toujours sous. Il était vachement gentil, on m'a laissé passer parce qu'on jouait la balle au pistolet, là, tu vois là. Quand on jouait la balle au pistolet, il n'y avait pas de bagnole, aucune bagnole, il n'y avait que des vélos de temps en temps, une bagnole de temps en temps, et on jouait la balle quand il y avait le père Colson. Ça, c'était bizarre, ce petit titubant comme ça. Il passait en titubant. Alors, le plus beau, c'était évidemment les enterrements. C'était les vrais enterrements avec cheval, corbillard, plus ou moins fleuri, les crottins. Il fallait se précipiter sur les crottins, tous les membres du quartier se précipitaient sur les crottins pour mettre dans le pot de fleurs. Dans le jardin, ça sent ce castagnier après. Mais bon, il fallait enlever ton béret et faire ton signe de croix. T'avais intérêt, sinon tu te prenais une paire de tartes. Il te fait, si ma mère voyait qu'on avait pas fait notre signe de croix. Et puis alors après, il y avait les gens qui pleuraient. Nous, on voyait ça, toi, à travers les lilas, là. Et c'était génial parce que on voyait d'abord les veuves, elles étaient vachement éplorées, on voyait même pas leur tête tellement, c'était épais, les voiles. Et après, on voyait des yeux rougis et tout, c'était quand même quelque chose. Puis après, ils s'en foutaient de plus en plus. Tu vois? Au fur et à mesure. Ça, c'était d'une gaieté, le deuil se faisait sous nos yeux. Tu vois, en quelques minutes, le deuil était fait. En quelques minutes, la vie reprenait ses droits. Je me souviens du marchand de peau de lapin, le gars du peau de lapin, qui ramassait peau de lapin, il ramassait des peaux de lapin, parce qu'on avait des lapins. Ce qui s'est passé, c'est que là derrière, dans ma maison, il y avait des lapins.
Des poules?
Des poules, bien sûr, il y avait des poules, des lapins. Et le dimanche, toi, c'est la porte de la cave. Et là, mon père, le dimanche, hop, on se faisait un lapin. On avait un tuyau de plomb. On attachait le lapin par la patte, à l'extérieur de la porte. Et on attrapait le lapin, et tac, un coup de tuyau de plomb sur la gueule. Et on arrachait l'œil du lapin. On avait un lapin au sang. Et ça tombait dans un bol, le sang du lapin pissait dans un bol, moi je tenais le bol, mon frangin mettait un peu de vinaigre, il y avait un petit peu de vinaigre avec des échalotes et tout, hop, pour le sang. Puis après on dépouillait le lapin, mon père dépouillait le lapin. Et la peau, dans du lapin, on mettait de la paille dans la peau du lapin. Alors ou bien on fouillait la peau du lapin à la pain-peau, ou bien ou bien ma mère les faisait des moufles. Ou bien des semelles pour mettre dans nos godasses qu'on les donnait à l'école parce qu'on était des économiquement faibles. Donc on les donnait des pompes à l'école. Ou bien elle les faisait des moufles. En peau de lapin, qui avait cette particularité, c'était de perdre leurs poils. Mais comme c'était à l'intérieur, il fallait remettre les poils. Dans les peaux de lapin. Et voilà avec quoi je partais à l'école, donc quand il faisait froid, un peu comme aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. C'est heureux finalement la vie. C'était pas mal quoi. Je me souviens quand on... Des fois je parlais de Monsieur Hulot tout à l'heure, j'espère qu'il existe toujours. Et qu'il nous emmenait à l'école, celui qui pététait. Il était merveilleux ce bonhomme. Il avait un truc porteur des pététés. Pour aller mettre ses machins téléphoniques. Et des fois il mettait tout un niché de monde dans son... Tu vois dans le triporteur devant comme ça. Et il vous emmenait. Il vous emmenait. Il était avec Liliane, sa fille, mon frangin, moi. Mais alors c'était sympa parce qu'on était, tu vois, secoués, on faisait tenir le couvercle. Comme ça. Et alors c'était vachement gay quand il nous larguait là. Il était pété la vis, bonhomme. Il adorait sa femme. Je me souviens comment il plotait sa femme. C'était un bonheur. Madame Hulot. Des fois, moi, le samedi, c'était mon frangin qui m'emmenait en... mon grand frère, Guy, qui nous emmenait en moto à l'école. Alors là, s'il avait une moto bécane, il a eu une terreau, il aimait les motos. Alors le truc, c'est que le samedi, ils étaient à déjeuner, tu vois, les parents. Alors ils étaient bien installés à table, en train de bien bouffer, bien picoler et tout, puis il fallait nous emmener à l'école. Alors ça l'emmerdait, mais il le faisait quand même, des fois. Alors nous, on insistait, parce qu'on voulait arriver à l'école sur le temps de sable de la moto, c'était quand même une bonne journée. C'était quand même une bonne journée. J'adorais ça. J'ai encore le bruit de sa moto. Lui, il avait carrément encore la serviette de table autour du cou. T'es fait un peu les voisins, là. Alors ça, c'est des voisins bien-aimés qui habitaient là. C'est monsieur et madame Ventura qui habitaient là longtemps dans la baraque en bois, la baraque des Espagnols. Et le père Ventura, c'était un héros de la guerre d'Espagne. Il faisait du carrelage, évidemment, comme tous les Espagnols du coin. Il y avait d'autres Espagnols qui avaient qui étaient là pour la même raison. Et sa femme était une merveille. C'était une merveille. Elle foutait absolument rien. Elle était là, tu vois, sous ce pôle. Ah non, il n'y a plus de... Dans son corps. Ah oui, c'est un poirier, ça. Elle était là, son poirier, dans sa chaise jaune, avec sa fille qui s'appelait Dolores, j'invente rien. Et ces deux femmes se marraient. Elles étaient aussi grosses l'une que l'autre. C'est des gens heureux qui se bidonnaient. Ils étaient là, c'est très bien, c'est bien. Avec le père Ventura qui rentre en vélo, le maçon. Et là, il y a un gars, toi, au 16, là, de cette rue. Je fais gaffe à pas trop dire où c'est, papa. Il y avait un gars qui était un collabo. Là, qui était un collabo. Là, il était alcoolo. Là, il est mort une nuit s'il avait confondu le vin blanc et le javel sous l'évier. Personne n'a voulu venir le ramasser. C'est mon père qui est venu le... Et là, sur cette maison-là, pendant des années de mon enfant, toi, je passais là pour aller à l'école. Voilà. Et là, sur ces murs-là, il n'y avait pas le petit grillage, il y avait des croix gammées. Là, c'était une maison de collabo. Pendant des années, jusqu'en 55, au moins, il y a eu ces croix gammées, qui étaient à chaque fois que le gars, il passait sa croix gammée, quelqu'un venait la remettre. Mais il y avait les bouteilles de lait, et le matin, mon père, son bonheur, c'était de se lever le premier. Il adorait se lever tôt, c'est un homme qui aimait, tu sais, le avant que ça commence. Et il allait chercher sa bouteille de lait. Et puis il en mettait une vide. C'est des petites choses. Des petites choses des gens de peu. Voilà, là, là on part vraiment pour l'école. Et il y avait un peintre en bâtiment. Un italien. Et c'était très joli. C'était toujours très... Il repeignait toujours sa maison. Là, il en est resté quelque chose. Il vient peindre. Et il est brique comme ça. C'était un italien. Il était un vrai peintre, hein, tu vois, le genre qui fait du faux bois, du faux marbre et tout, qui s'y connaît, quoi. Il avait une grosse femme. Ben oui, je crois qu'il s'appelait Rousseau, ces gens-là, mais je sais pas s'il s'appelle. Oui, il y a un monsieur qui est en train de... Oui, c'était un facteur qui habitait ici. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous vous appelez monsieur Rousseau? Non. Vous savez qu'il y a un monsieur Rousseau qui habitait là, autrefois? Non, comme ça, parce que je l'ai connu. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Voilà, bah c'était des copains à moi quand j'étais gosse. Alors ça, j'avais un copain qui s'appelait... Oh, ça me revient, il s'appelait Coé. Coé, là, dans cette maison-là. Parce que les gens, ils avaient des jardins. Le terrain, on allait au terrain, on allait au jardin. Il avait un petit vélo. Et puis derrière, il y avait un petit... une petite remorque à deux roues, ou à une roue. Et on amenait les outils, la bêche, le râteau, le plantoir et tout. L'arrosoir. Des fois, on emmenait même de l'eau. Et puis, on allait au jardin, on allait s'éclater au jardin. Les hommes faisaient les légumes. Voilà. Alors, ça, c'est ça, on commence à être déjà loin, là. C'est la rue Jean-Baptiste Clément, auteur du temps des cerises. Ça va être marqué quelque part. Et ça, ce petit bout de terrain, cette maison, c'est désolante, de laideur. C'était quand j'étais môme, un terrain magnifique, c'était une petite forêt vierge qui était là. On passait là, tu vois. Là, on pouvait couper, tu vois, la pointe de cette rue, on pouvait l'éviter, on pouvait éviter de faire le détour. Et on passait là. Et c'était formidable, il y avait des grillages, il fallait passer là, c'est... L'installation frigorifique, air froid qui passe, c'est quand même pas n'importe quoi. Il faut laisser la place. C'était une urgence. Et donc, là, on passait, tu vois, on traversait. Alors des fois, on se paumait un petit peu, on allait faire quelques bagarres, quelques castagnes, quelques supposées cochonneries avec des filles. Il y en avait quand même, mais on se marrait quand même. Les filles étaient pas... Et puis, au fond de ce truc, habitait un poète qui s'appelait Primaire. Voilà. Là-bas au coin, sous les branches, il y avait une méchante cagnard. Il y avait un bonhomme qui vendait des cravates et des pyjamas sur les marchés dans un parapluie. Il s'appelait Primaire. Il avait une balle dans le poumon, Primaire, qu'il avait ramassé dans je ne sais quelle guerre. C'était que... Il sifflait comme ça et il récitait des poésies. Il écrivait lui-même à la main. C'était des jolis. Ouais, il nous adorait. Oui, tu parles. Il m'a donné le goût de la poésie, Primaire. Et alors, si tu veux, de la poésie, mais peut-être pas des poètes, parce qu'il avait donc ce bruit de poumon qui sifflait. Et puis, à cause de ça, sans doute, le pauvre bonhomme, il avait un petit peu de... Tu vois, enfin, bon, c'était pas un spectacle bien. Et ça n'empêchait pas, pourtant, d'avoir une très jolie fille. C'est pour ça que, des fois, quand on est à l'école, on allait à l'école, quand même pas. Mais des fois, il n'y avait pas que l'école. Et donc, il y avait la cagnotte de Primaire, qui était toujours prêt à nous sauter dessus pour nous réciter des poésies, qu'il récitait, par ailleurs, à Montmartre, je crois, il disait ça. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais il était bien vieux. Ce qui était très frappant, c'est que c'était cette balle qu'il avait dans le poumon. Là, il y avait une ferme, tu vois, au coin de la rue. Là, je fais vraiment, c'est vrai.
Une vraie ferme.
Une vraie ferme, oui. Tu vois? La maison avec des volets, de tôle bleue pâle, là. C'était une ferme. On allait chercher le lait. On voit bien la forme de la cour de la ferme. Tu vois?
Là.
Voilà, ça, c'était une ferme. Et il y a un gars qui est en train de réparer sa sono, c'est la banlieue d'aujourd'hui.
Par où c'est, là?
C'est tout droit. On continue. Faut pas se tromper. Thank you.
Et si vous avez eu une école, ben vous pouvez probablement faire la même chose. Un jour, vous faites comme moi, vous partez de la maison de votre enfance, si elle existe toujours, et puis vous faites le chemin, et peut-être que vous arriverez à votre école, si elle existe toujours. Voilà le chemin que j'ai eu envie de faire avec Zoé, Varier. Mais je sais pas si l'école existe. Vraiment pas. Là, c'était chez Desmarais. C'était mon pote Desmarais. Elle était blond. Desmarais, il était bizarrement blond. C'était très, très blond. Très jolie maman.
Pourquoi bizarrement blond?
Trop blond, tu sais. Blond, presque blanc. Bon. Et c'était un bon copain. Il avait un vélo. C'était un fou de vélo, Desmarais. On était tous des fous de vélo, hein. Le vélo, la boxe et l'accordéon. T'as vu, je t'ai pas menti, c'est bien lavé, Jean-Baptiste Créant. Ah, c'est loin l'école, hein. Tu vas voir, c'est vachement loin, hein. Donc là, voilà, on a fait le tour de chez primaire. Et là, il y avait un gars qui vulcanisait les pneus. C'est-à-dire que là, dans ce garage que tu vois là, où il y a une pub coincée dans la boîte à lettres, il y avait un petit bonhomme là sur le trottoir. Où... Ça sentait bon, d'ailleurs. Je crois pas que j'oublie les odeurs. Ça sentait le pneu. Et ce gars, il avait des pneus toute taille sur ce trottoir, et avec un méchant appareillage, il faisait des dessins dans les pneus. Tu vois? C'était son boulot, il revenait.
Dans le pneu était bleu?
Ouais, et ben lui a creusé dedans. Tu vois? C'était son boulot. Il avait un méchant. Il avait un chien très méchant qui m'avait attaqué une fois, je me souviens, j'avais toujours très peur. Là, c'était des pavés, tu vois, on a mis du bitume sur les pavés pour rendre plus agréable le confort des automobilistes. Mais sur le trottoir, c'était du mâche-fer, en fait. Et alors, c'était une drôle de combine parce que c'était des ordures brûlées. On brûlait des ordures, puis on les mettait sur les trottoirs. Et alors, nous, on marchait là-dedans. Espérant que ça allait se tasser. Et alors, le long de cette allée, cette rue-là, ça nous conduit tout droit. Je sais pas voulu te le dire tout de suite, pour te garder la surprise, au marché de la Basoche. Le marché de la Basoche. Hein. Le marché de la Basoche, et quand j'étais môme, tu vois, il y avait le grenetier, le comte, par exemple, qui passait avec son cheval, blanc, et sa charrette, et qui allait au marché. Et moi, je connaissais le grenetier, la grenetière, madame le comte, et je montais dans la carriole, des fois. Là, j'étais tout le monde, mais c'est vrai. Je montais dans la carriole. Et elle était aidée au marché par madame Garniche, qui est un personnage étonnant. C'est la femme que j'ai... qui pleut le plus au monde que j'ai pu rencontrer de ma vie. Elle aidait les grenetiers au marché. Et c'était un des personnages, j'adorais cette bonne femme. Elle vivait dans un tas d'ordures, là-bas vers la route nationale. Et elle était cernée de caisses en bois, de poissons, tu vois. Des caisses de en bois qui avaient contenu du poisson.
C'était
sa maison? Ouais. Elle habitait. Alors ma mère qui a toujours pris les chiens garés comme ça en protection, recevait chez nous madame Garniche, qui venait se chauffer au coin du poil.
C'est très
bien
de sa
maison. Ah oui, bah oui. Ouais, c'était une puanteur. Alors là, bon. Là, c'est le... Là, on est au marché de la Basoche. Alors c'était le terrain de mon père. Mon père, il arrivait... samedi c'était casquette, que lundi c'était, toute la semaine c'était béret, mais samedi c'était casquette. Et là il venait au Mercado avec son sac à provisions roulé sous le bras quand il arrivait.
Ouais.
Et c'était son terrain. Le marché c'était son terrain. Là, il connaissait tout le monde. Il fallait pas l'arnaquer. Il adorait, c'était gai comme tout, c'était le bonheur le marché. Alors là, bon. Là, on rejoint des trucs très terribles, c'est l'école des filles. L'école des filles de la rue Robillard. Là, il y avait le sexe féminin qui braillait derrière ces grilles.
Ça, c'était étonnant, parce que dès que j'arrivais par là, j'entendais les filles brailler. Il y en avait qui me regardaient et que je regardais, quoi.
Est-ce que toi, tu passais devant l'hôtel et puis tu traînais un peu pour en voir une sortie?
Je traînais pas du tout, je marchais le plus vite possible tellement j'étais effrayé. Mais il y avait des fois des regards qui s'accrochaient. Et puis le lendemain, ben, on se revoyait, quoi. Et puis ça pouvait comme ça durer pendant des semaines où on se regardait tous les jours. Mais quand même pas mal cette école de filles. Ah, elle a quand même, on dirait vraiment un dessin de Tardy, quoi. Hein. Le meilleur pour peindre ça, c'est Tardy. Attends, on est en train de se tromper de trottoir, je suis en train de prendre le trottoir des filles dedans. Tu vois, c'est, il fait, ça c'est le trottoir des filles. Ah là, c'est le trottoir des garçons. Il était plus large que ça d'ailleurs, j'étais plus petit, c'est peut-être ça. Là, c'est une infirmière. Elle avait une petite boutique où tu trouvais tout. Les cahiers, les plumes sergent-major, les règles, les crayons, les bonbons, les buvards. Et là alors, c'est une maison, je sais pas ce que les gens faisaient, ça devait être des négociants en vin ou en charbon, mais je me souviens qu'il y avait... Cette maison-là, ça me fascinait toujours parce qu'il y a toujours de très belles voitures. Et je me souviens d'une... Le gars, il avait une vedette, une Ford, avec une calandre en forme d'aile d'avion. Alors ça nous étonnait. Ah oui, ben ça, c'est marrant comme les... Tu te rends compte, 40 ans après, il y a encore ces... Là, c'était un endroit comme ça, un peu boisé. Regarde la petite maison là-bas, dans le fond, c'est vachement mignon. Hein. C'est marrant. C'est le printemps qui vient dans la banlieue. Hein. C'est marrant, il y a une dame qui me double, si ça se trouve. Elle passait sur le trottoir quand j'étais môme. D'ailleurs, je m'aperçois que c'était drôlement long le chemin de mon école. Hein.
Ben ouais, pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'une fois comme ça, de temps en temps, on ne se prendrait pas pour des personnages importants et qu'on ne ferait pas ce que j'essaye de faire là, c'est-à-dire le chemin de l'école? 40 ans plus tard, je l'ai dit, je suis trahi. Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Presque tout le monde, je pense, peut le faire. On continue, ça vous amuse? Moi, ça m'amuse beaucoup, ça me remue, je vous dis pas tout. Hein. Je vous dis certainement pas tout, et je sais toujours pas s'il existe. Toujours, cette école.
C'est vrai, l'école. Quand même, c'est beau. Hein. Ah ouais. Alors là, par ici, dans une de ces maisons, peut-être bien celle-ci, habitait monsieur et madame Rognard, qui était le directeur et la directrice de mon école. Et c'est madame Rognard, la sainte madame Rognard, qui m'a appris à écrire. Voilà mon école. Ville des pavillons sous bois, groupe Anatole France, école des garçons. Mais je vois qu'ils sont en travaux. On va essayer par l'autre porte. La ville. Mais elle marche toujours cette école, on a l'impression que c'est une école morte. Construction et réhabilitation du groupe scolaire Fischer et Pierre Brossolette. Montant de travaux à 21 millions de francs. Ça veut dire que mon école est en travaux?
Oui?
Bonjour madame, c'est pour la radio. Et là je suis en train de faire un reportage. Parce que j'étais dans cette école quand j'étais enfant.
Vous tombez mal, il n'y a personne.
Il n'y a personne? Elle est fermée l'école?
Ils sont en travaux.
Ouais.
Et ils sont en train de regrandir l'école.
Ouais.
Et aujourd'hui, il n'y a personne.
Ouais. C'est pas possible d'aller faire un tout petit tour? Ça vous gêne pas si je vais faire un tour dans l'école?
Non, mais je ne verrai pas grand-chose.
Hein. Oui, mais ça m'intéresse d'aller voir.
Ah bah alors, allez-y.
Ça fait 40 ans.
Vous n'en avez rien.
Bon, on va faire un tour. Merci. Oui, mais je me souviendrai des lieux. Alors, on entre à l'école, je rentre à l'école.
n'existe plus là. Parce que c'est en train, on est en train d'agrandir.
Le même carrelage.
C'est le même carrelage.
Je vais te faire voir le bureau du directeur de Monsieur Renard, c'est là.
Ah là, je te raconte pas.
Là, c'était la terreur. Et voyons. Et là, c'était la cutie.
Ah ouais.
L'infirmerie.
Et c'est toujours, hein. C'est toujours. Un médicament, ça ne se prend pas à la légère. La chasse aux poux est ouverte. Dormir, c'est vivre aussi. Et conseil bien senti. Là, on entre dans le préau.
Qui n'a pas changé.
Qui n'a absolument pas changé. Avec les machins pour faire la gym, les barres parallèles, le truc là où on se faisait torturer. Pour faire la gymnastique corrective, parce que mais avec tout d'escalier, là-bas. Là-bas, c'est... Ben voilà, c'était cela qui avait lieu, la chorale. Là, c'était la cantine. Là, il y avait la classe des attardés.
Là, la porte,
ça. Ouais, la porte, ça, c'était la classe des attardés. C'était Monsieur Brudier, jamais réussi à savoir, qui s'occupait des attardés. Et puis, frappant cet carrelage, cette frise, des carrelages vert et blanc. Mais je sais qu'on entrait en place par ici, par ces couloirs qu'on va prendre.
C'est impressionnant, c'est impressionnant.
Là, j'ai un peu à écrire. En fait, la première fois que je suis venu dans cette école, j'avais 6 ans. Amis, comme les lions mangés. Pourquoi Pipon, petit, appelle copain. Chat, chien, chuchote, brioche. Rue, talus, salut, crochu, barbu. Sors, comme, encore, et fort, robe. Mon ami, mes amis, la pomme, les pommes. Voilà. Les plantes vertes, les petites tables. Un dessin. Ah, la pendule, c'est la même pendule. C'est vrai que les noms ont toujours les yeux fixés sur la pendule. Ça, c'était la classe de Madame Rognard. L'escalier, la cour de récré, le couloir vers la cour de récré, l'escalier de l'étage, là c'était les grands, ça c'est les tables, on avait des tables alors là bien plus antiques que ça, c'est que c'était déjà des tubes et des bois, mais c'était des tables en bois qu'on nettoyait une fois par an. Il y avait la journée où on nettoyait sa table, il fallait amener du papier de verre, et de la cire, et aussi des morceaux de verre. Des morceaux de verre tassés de vitre pour gratter la table. Mais une fois par an, parce que j'ai une poussière de tous les diables, le maître, monsieur Chaudron, monsieur Bisionnet, monsieur Dumas, madame Kyrier, monsieur Ferdinand, et j'en oublie, eux-mêmes se mettaient en bras de chemise et, se nettoyaient en bureau. Il y en avait des petits encriers en faïence. Il y avait la dame de service qui de temps en temps passait avec sa bouteille, ostensiblement, et son petit chiffon qui remplissait les encriers d'encre. Noir pour ce qui me concerne, et il y avait aussi la rouge pour, on sait quoi le rouge. Thank you.
essentiel, c'est le tablier, gris ou tablier noir. J'ai porté le tablier noir qui est attaché un peu sur le côté à la russe, comme ça, avec un liseré bleu ou rouge, tout petit, et la croix. On avait la croix. Si on était on avait bien travaillé, on avait la croix. Et on avait la boîte à bon point, le sac de billes, le petit sac avec le goûter. Le goûter de 10 heures, le goûter de 4 heures. Pour ceux qui restaient à l'étude. Alors bon, c'était un morceau de pain avec un morceau de chocolat dedans. Pain et chocolat. Un petit peu fondu. C'est bien quand on pouvait passer ça sur la cuisinière, c'est une cuisinière à charbon. On passait ça un petit peu au four à la cuisinière, c'était un peu mou là-dedans, c'était génial. C'était le panard. Mais je me souviens de cette classe, c'est dans celle-ci qu'il y avait les distributions. C'était après la guerre. Et il y avait beaucoup de pauvreté, les Trente Glorieuses, ça a commencé plus tard à produire des effets. Et donc la caisse des écoles, ou peut-être la mairie, se chargeait de distribuer des colis aux mômes défavorisés dont j'étais. Et c'était une... ça c'est vraiment une humiliation terrible dans la vie quand on distribue. Je crois que c'est porté dans le bon, je sais pas quoi, j'ai plus d'avis là-dessus. Mais la distribution des godasses, c'était particulièrement dur. J'ai gardé des trucs sans droit. Fait ce qu'il pouvait, hein, je pense. J'espère. Là, on est... C'est bien, hein, les instincts. Le rôle de fer vers la Camargue, on s'intéresse à ce qui se passe. Sortie interdite. C'est en travaux, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas le droit, mais... Ouais. Bon, c'est vraiment interdit, il y a des câbles qui sont extérieurs. On va aller dans la cour de récré. La cour de récré. Voilà la cloche. Là-bas, il y avait des cabinets. C'était un haut lieu. Puis, d'un monde, pour tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, franchement, qu'on avait quand il flottait. Il y avait le préau aussi. C'est là que tout se passait, tout s'apprenait, tout se disait, tout s'échangeait. Ça correspond au marché pour les parents qui chient de l'école. C'était les garçons. Et la cour des grands et la cour des petits, entre les deux, l'instinct qui allait et venait, sans siffler à la main, sans béret à la tête, son manteau en hiver. Bon, je peux dire de quoi je peux parler au début, quand je l'ai dit, c'était les grands moments, les batailles à cheval, enfin tous les gosses connaissent tout ça. Sauf peut-être que beaucoup ont oublié que quand c'était après la guerre, au lieu de jouer aux gendarmes, aux voleurs, on jouait aux FFI et aux nazis. Alors c'était vraiment embêtant. Et encore une fois, les mômes avaient tout inventé, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Je trouve qu'on est FFI, qu'on est nazi. C'est pas très bien pourquoi, on n'a toujours pas très bien compris pourquoi on se trouvait du bon et du mauvais côté. Et voilà, c'est tout. Si les patins ne sont absolument à l'époque, j'en suis sûr. Si on pouvait s'approcher du patin, on verrait les gravés et même les antiques. C'est basé toujours pour que le monde ne creuse pas, ne grave pas le bois des. Et bien devant le sifflet, coup de sifflet du maître, tout le monde en rond, on s'aligne, on tend le bras comme ça, il faut tendre le bras comme ça, garde à vous, on ne muscle pas dans les rangs, on a sa place dans les rangs, les petits devant, les grands derrière, et on rentre dans l'école, en rang, place par place, et on s'arrête au coin du couloir. On tourne, etc. C'est un peu militaire. On rentre pas comme ça en paquet, débraillé. Il faut être habillé beau. Il faut être propre. Sinon, il y a des remontrances. Sinon, il y a des murs qu'on envoie les parents. Les riches avaient des tabliers chics. Et nous, on avait des tabliers. Puis, on a fait comme fabriqué ma mère. Et ça, c'était pire que tout, parce que c'était pas avec des vrais tabliers comme les autres. Mais merde, les autres n'étaient pas oubliés, mais c'était pas, on n'était pas content parce que c'était pas les vrais. C'était pas les vrais comme les autres. Mais enfin, il y avait plus pauvres que nous. De toute façon, on trouve toujours. Si vous avez besoin de trouver plus pauvres que vous, on a ce qu'il faut. Mmh. Reste à savoir, dans 40 ans, les enfants qui aujourd'hui commencent l'école sont entrés à l'école. Si dans 40 ans, ils reviennent sur le chemin de leur école. Ce qui est étonnant, c'est à quel point, là en l'occurrence, dans cette banlieue est de Paris, rien n'avait changé, rien n'avait bougé. Il faudrait maintenant faire quelque chose sur la cour de récréation, parce que ça, c'est vraiment, comment on pourrait appeler ça, le théâtre initial. C'est là qu'on s'initie à tout, et tous les caractères des personnages, des enfants, des comportements des uns et des autres dans leurs relations, rapports de force, amour, détestation, domination, etc., on retrouve ça partout dans la vie. La vie, par la suite, n'est qu'une cour de récréation, sauf que le plus souvent, c'est de récréation violente dont il s'agit. On appelle ça récréation, mais c'était des drames épouvantables qui se jouaient dans ces cours. Je crois qu'il y a un film qui a été fait, un documentaire dont on m'a parlé, par absolument magnifique, sur les jeux des enfants et les luttes des enfants dans les cours de récréation. Voilà, merci à tous. Vous avez bien reconnu Zoé Varier. La technique aujourd'hui, c'est Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Assistant Joël Levert, Antoine Dabrowski et Christophe Imbert. Le répondeur de la base, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le fax, 01 56 40 41 07, 01 56 40 41 07. Et c'est Bruno Carpentier et Antoine Chao qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, réclame.
France 3. Dis donc Marco, maintenant c'est après tard à 5 qu'on te retrouve.
Oui, on va se coucher moins tard le vendredi. On se retrouve maintenant à 22h50.
Moi je suis sûr qu'il y a trop de choses.
Oui, Arnaud Clarsfeld rejoint la petite bande.
Faire quoi?
Il ne va pas hésiter à dire ce qu'il pense de l'actualité.
Et c'est toujours en direct.
Ah oui, c'est ça qui est drôle. Au moins on se met un peu en danger. Cette année plus encore, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Donc rendez-vous après Talassa. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est demain et en direct à 22h50 sur France 3.
France 3, de près, on se comprend mieux.
Bon alors, on se retrouve demain à 17h pour la base si j'y suis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse pour le journal avec Pierre Servagent. Salut!